Émile Blémont, une vraie Française. Claire était charmante, mais elle n'était pas facile à marier. Elle ne représentait pas ce que les gens sérieux appellent un bon parti. Certes, on appréciait dès le premier abord et toujours davantage sa grâce naturelle et sa gaieté cordiale, la douceur de ses fins cheveux cendrés, la musique légère de sa voix si fraîche et l'expression profonde de ses yeux, tantôt gris, tantôt bleu, de ses tendres yeux couleur du temps comme l'oiseau des contes de fées. Mais ces choses-là ne sont pas ce qu'à Paris, de nos jours, on prise le plus particulièrement dans une fille à marier, et même elles inquiètent les esprits timorés, surtout quand rien de solide ne les fait valoir. Claire n'avait, pour ainsi dire, pas de dot. Elle ne devait apporter en ménage qu'une modeste rente, dont le chiffre n'était pas certain, et les espérances pécuniaires brillaient par leur absence. Son père, M. Albe, le plus honnête homme du monde et le plus intelligent, n'offrait malheureusement aucune garantie positive. Il mêlait à toutes ses entreprises une telle dose de passion, de chimère et de désintéressement que, tout compte fait, il n'en tirait jamais de gros bénéfices. Architecte de talent, il eut assez vite une belle clientèle. Cela n'avait pas suffi à son vaste et ardent cerveau. Sollicité tour à tour par toutes les sciences et tous les arts, il s'était lancé éperdument à la recherche de vérités neuves et de trésors inexplorés. Il n'avait pris la peine de conserver pour client que ses amis. Pour cela, il travaillait avec acharnement, recommençant parfois tel ouvrage dont il n'était pas satisfait, en y perdant alors plus qu'il n'y gagnait. « C'est un original, c'est un artiste, un inventeur, » disait avec un sourire de supériorité les gens incapables de rien inventer, mais habiles à exploiter tout. Être le gendre d'un tel beau-père, il n'y avait pas là de quoi tenter les jeunes messieurs à moustaches retroussées ou à barbe pointue, en quête d'une situation avantageuse. Et cela désolait Madame Albe, petite femme brune au trait régulier, à l'esprit net, une flamande de race castillane, qui mettait tout l'ordre possible dans l'aventureuse existence de son mari. L'avenir de sa fille était sa préoccupation continuelle. Son fils Jules, un gamin de 11 ans, lui donnait peu d'inquiétude. Il tenait d'elle et très certainement, il saurait se débrouiller plus tard. Mais Claire tenait du père et elle venait d'entrer dans sa 20e année. Pour la bien marier, il ne fallait pas perdre de temps. Ce fut donc une grande joie pour cette mère anxieuse quand elle sut que Philippe Saville pensait à Claire. Madame Albe le guettait depuis longtemps, l'excellent jeune homme, et pour l'amener à se déclarer, elle avait usé d'une admirable diplomatie féminine sans compromettre aucunement sa fille, avec qui elle avait cru devoir garder une parfaite discrétion. Philippe Saville avait 28 ans, d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, le visage allongé entre de courts favoris châtains. Il avait l'air grave, sans affectation, et s'il ne visait ni à l'éclat ni à l'élégance, il était absolument correct. Depuis 2 ans, depuis la mort de son père Arthur Saville, un Américain de Philadelphie, venu tout jeune à Paris et marié à une Française, il se trouvait à la tête d'une importante maison de commission dont il avait su maintenir et même augmenter le chiffre d'affaires. Sa fortune était donc fort respectable déjà, sans compter ce que lui laisseraient sa mère et son grand-père maternel. Et puis, selon toute probabilité, il multiplierait rapidement ses capitaux, car il ne se faisait qu'à travailler. Il n'aimait de la vie que le substantiel, il dédaignait le hors-d'œuvre et les friandises du dessert. L'hiver précédent, il avait rencontré Claire chez des amis communs, à des bals, à des soirées intimes. Elle fit alors sur lui, sans y prendre garde, une impression profonde. Après un voyage commercial au-delà de l'Atlantique, il eut plusieurs occasions de la revoir. Se trouvant assez riche pour deux, il n'hésita plus. Sa mère, qui l'adorait, désirait vivement le marier, et il obtint un consentement rapide. Le grand papa Rambourg se montra moins accommodant. Il avait rêvé pour son petit-fils une alliance plus fortunée. Il accepta cependant de faire la demande officielle. Mais d'abord, pour ne point l'exposer à un échec, Madame Saville pressentit prudemment Madame Albe. Elle la trouva fort bien disposée, et toutes deux s'entendirent pour donner aux jeunes gens le loisir de se mieux connaître. Claire, lorsqu'elle apprit les sentiments du jeune homme, en fut sincèrement surprise. Il s'était toujours tenu à l'écart. Oh, assurément, il ne lui déplaisait pas. Mais pourrait-elle l'aimer? Une fille sans dot est toujours flattée d'être recherchée par un jeune homme riche. Elle éprouva donc pour lui une certaine reconnaissance qui, vraisemblablement, se transformerait en affection. Septembre finissait. Tout le monde était revenu de la mer, de la source ou de la montagne. Avec l'automne, recommençait autour de Paris la vie de château. La belle Madame de Rêve, que l'on appelait toujours ainsi malgré ses cheveux gris poudrés à blanc, s'était installée, comme d'habitude, dans son domaine des Closiers où elle restait chaque année jusqu'au milieu de décembre. Veuve d'un agent de change et remariée avec un ancien préfet visant à la députation, elle recevait beaucoup. Elle connaissait de longue date et voyait intimement Madame Albe, une amie d'enfance, et aussi Madame Savine. Elle se vit un plaisir de favoriser leur projet. Dans ce but, elle invita les deux familles à passer en même temps quelques jours au Closier. Le grand-père Rambourg fut du voyage. Il avait tenu à en être ce vieux Normand de Paris, aux pommettes toujours roses sous ses rides en éventail, aux lèvres minces sur une mâchoire énorme, aux yeux d'eau de mer clairs comme les yeux d'un chien danois. Il ne voulait pas avoir pour belle petite fille une esservelée, une gâcheuse, une poupée, ne sachant ni le prix du temps, ni de la valure de l'argent. Oui, on prononçait valure pour valeur. Sa voix était aussi aiguë que son regard. Les voyageurs se rencontrèrent à la gare et montèrent dans le même compartiment. En aperçant le jeune homme, Claire avait eu un moment d'émotion. Elle se remit rapidement, devinant là une émotion plus vive encore, et la timidité, l'embarras d'un travailleur peu mondain, un peu féministe, qui aimait sans être sûr de plaire. À tort ou à raison, elle se sentit tout de suite une vague supériorité sur son adorateur, si correct et si fortuné qu'il fût. Cette sensation la mit à l'aise, la rendit gaie, aimable, vers une nuance de bienveillance protectrice. En arrivant au Closier, Philippe, plus amoureux que jamais, se berçait des plus riantes espérances. Le lendemain, après déjeuner, par un temps doux, sous un ciel légèrement voilé, on partit pour la chasse, les dames en break, les hommes à pied. Rendez-vous était fixé à une demi-heure, demi-lieue du château, dans un coin montueux et boisé du parc. On traversa les larges pelouses de frais velours vert et la rivière sinueuse aux flots limpides qui prenait sa source dans le domaine. Les piqueurs et les gardes attendaient avec les furets et les chiens. M. Monsieur de Rèves plaça ses invités sous bois de telle façon que chacun d'eux commanda une issue de terrier. Puis on lâcha les furets et ces petites bêtes au pelage fauve, au museau fouilleur et carnassier, aux ongles durs et crochus, pénétrèrent dans les trous d'où l'on vit bientôt fuir les lapins effarés. Monsieur Albe, chasseur adroit et passionné, s'en donna à cœur joie. Philippe avait accepté un fusil pour ne pas être autrement que les autres, mais il restait avec les dames, peu soucieux d'exploits cynégétiques et faisant discrètement sa cour à Claire. « C'est fort bien à vous de nous tenir compagnie, lui dit-elle. Il faudrait pourtant pas nous sacrifier totalement le plaisir de la chasse. »« Oh, ce n'est guère un plaisir pour moi, mademoiselle. » « Est-ce bien vrai ? » ?»« Oui, la chasse, comme on l'entend maintenant, me semble une distraction banale, un peu cruelle et un peu lâche. »« Que mon père ne vous entende pas parler ainsi, et craignez la vengeance du grand Saint-Hubert, monsieur Saville. »« Pardon, je n'ai pas encore eu le temps de prendre goût à ces choses-là. Depuis 2 ans, mes loisirs sont rares. » Et je commence seulement à respirer, mais en vérité, n'y a-t-il pas dans un tel massacre un reste de barbarie féodale, s'accordant mal avec nos idées et nos mœurs ? Bah ! Interrompit la belle-sœur de Madame Rêve, la petite Madame Larnac, qui venait de s'arrêter près d'eux, le fusil à la main, en costume de moderne chasseresse, chapeau tyrolien, blouse de drap serré, à la taille jambière montant jusqu'aux genoux. « Ah, ne sommes-nous donc pas dans un siècle de féodalité bourgeoise ? D'ailleurs, ce sont toujours les lapins qui commencent, et aucune constitution n'a encore proclamé le droit de ces animaux nuisibles qu'il aimait voir d'exterminer. Abattez-en un, monsieur Saville. Vous me ferez rougir de ma férocité. » Philippe consulta Claire du regard. « Obéissez, dit-elle en riant, ce ne sera plus de la barbarie, ce sera de la galanterie. » Bon gré, mal gré, il suivit Madame Larnac, se laissa poster par elle, guetta, tira. « Oh, pas trop mal pour un amateur. » Le coup avait porté, mais hélas, au lieu d'un lapin, Philippe avait tué le furet. Oh, il ne savait comment s'excuser. Madame de Rêve arrangea les choses. Le furet, contrairement à tous ses devoirs, avait chassé pour son propre compte et s'était attardé à boire le sang d'une victime étranglée, si bien qu'on avait dû le faire débusquer par les chiens. Il avait mérité son sort. Qu'il soit donc enseveli, le furet du bois joli, fredonna Madame Larnac, jouant toujours son rôle de chercheuse d'esprit. Et elle ajouta, « Monsieur Saville, vous avez vengé les lapins, vous pouvez maintenant aspirer à tout. Chambre, sénat, ministère. » Philippe prit le parti de rire avec tout le monde et répondit qu'il ne voulait même pas être conseiller municipal. Mais il resta inquiet. Et le souvenir du malheureux furet le hantait sans trêve, tandis qu'il s'appliquait à prendre des airs dégagés. Claire l'avait-elle trouvé ridicule ? Elle n'avait rien dit, rien laissé paraître, et gardait une réserve énigmatique. Pour faire diversion, on alla d'un autre côté chasser le faisan. On traversait à découvert une petite vallée herbeuse, quand on vit venir un grand trot entre les hauts châtaigniers, deux cavaliers dont l'un portait l'uniforme d'officier d'artillerie. « Ah ! » dit Madame de Rêve, « voici les deux Ramel, l'oncle et le neveu. « Quels sont ces messieurs ?» demanda le papa Rambourg, avec l'âpre curiosité toujours en éveil dans ses yeux. La châtelaine Éclosier lui fit en quelques mots leur histoire. M. Gilbert Ramel, l'oncle, était l'avocat bien connu, un avocat artiste, plaidant pour les artistes, assidu aux premières représentations et qui, avec ses longs favoris flottants, avait l'air d'un capitaine de vaisseau en congé. Ayant perdu coup sur coup sa fille unique et sa femme, il ne s'était pas remarié, quoiqu'il n'eût guère plus de 40 ans. Il vivait en garçon et avait reporté toute son affection sur son neveu Henri, dont le père et la mère étaient moins morts complètement ruinés par des spéculations hasardeuses. « Bravo! Soyez les bienvenus !» leur dit M. de Rèves en s'avançant vers eux. « Vous avez demandé si souvent, avec si peu de succès, de venir un beau jour nous surprendre, que je n'osais plus compter sur cette aimable surprise. Et nous en sommes doublement charmés, » ajouta Madame de Rèves avec un empressement sincère. « Alors, dit M. Gilbert Ramel, nous avons bien fait de nous inviter. Voilà, Henri est maintenant garni. » Disons à haute fond, mais ma journée était libre, le temps propice, j'ai quitté Paris dès le matin, j'ai déjeuné là-bas avec le lieutenant et je vous l'amène. Nous avons fait nos deux lieux tout d'une traite. Nous manquons de grosse artillerie, reprit Madame de Rèves en souriant, mais si monsieur l'officier veut bien s'accommoder aujourd'hui d'un simple jeu faucheux, il nous fera plaisir. Les deux cavaliers mirent pied à terre. Henri prit le fusil d'un garde et les chasseurs se distribuèrent dans les allées du bois. Les piqueurs abattaient déjà les faisans en criant « Poule, poule !» quand c'était une femelle, afin qu'alors on épargnât la bête. L'œil vif, le profil ferme et fin, l'allure souple, la physionomie pleine d'assurance et d'énergie, Henri Ramel n'était pas moins bon tireur que bon cavalier. En quelques minutes, il eut abattu ses deux faisans. « Ne prenez-vous pas votre revanche ?» dit Claire à Philippe, revenu près d'elle. Philippe comprit qu'il fallait faire oublier le fâcheux incident du furet. Mais il jouait de malheur. Dans sa hâte, il buta contre une racine saillante et son arme, partant malgré lui, envoya plusieurs grains de plomb dans les mollets d'un garde qui se trouvait à 20 pas. « Êtes-vous blessé ?» dit Mademoiselle Alba à Philippe. « Non, mais je mériterais une blessure grave. Cela me rendrait peut-être intéressant. Je ne suis que maladroit. Saint-Hubert se venge. Vous aviez raison, mademoiselle. » Lorsqu'on n'aime pas, on est sans pitié pour qui vous aime. Claire eut subitement une envie folle de chasser, elle aussi. Elle demanda à Madame Larnac son fusil, un vrai bijou, et la façon de s'en servir. Un faisan s'enleva devant elle. Pan, le coup partit, le coq tomba. Elle eut un cri de joyeux étonnement. « Oh, si c'est votre coup d'essai, mademoiselle, on ne saurait trop vous en féliciter, » dit Henri Ramel en lui apportant la bête. Philippe, très pâle, semblait avoir été frappé au cœur par le contre-coup. « Mais que diable ce militaire vient-il faire ici ?» grogna entre ses dents le papa Rambourg. « Cette chasse est absurde !» « Nous ne sommes pas des massacreurs, nous. On aurait pu se voir à l'opéra comique ou à la comédie française. » Le soir, au salon, Philippe, appelant à lui tout son courage, s'approcha de Claire. « Monsieur Saville, quel est votre grade dans la réserve ?» lui dit-elle à propos de rien, le regard distrait. « Ah, mais mademoiselle, je ne suis pas officier, je ne suis pas même soldat. »« Mais comment cela se fait-il? À quel titre êtes-vous donc dispensé ?»« Ben, mon père était citoyen américain, j'ai gardé sa nationalité, ce qui m'exempte de service militaire en France. Mais pourtant, si nous avions la guerre, m'y enverriez-vous? Oh, vous pourriez y aller sans cela. Même si j'étais marié, père de famille. Monsieur Saville, vous êtes très raisonnable. Le serais-je trop, mademoiselle? Non, c'est moi qui ne suis pas assez. Henri Ramel, en ce moment, traversait le salon cherchant une danseuse. Ses regards rencontrèrent ceux de Claire. Elle tressaillit, attirée vers elle dans une inconsciente et délicieuse émotion, il vint et l'emmena. Philippe se sentit abandonné, le cœur serré, les yeux voilés par une brume de pleurs. Il souffrait cruellement. Quelle ravissante jeune personne, disait à mi-voix M. Gilbert Ramel, qui, debout près de lui, suivait du regard Mademoiselle Albe valsant avec le bel officier. Quand Claire se trouva seule avec ses parents dans l'appartement qui leur avait été réservé, elle sentit s'élever en elle une étrange tristesse. Sa mère était soucieuse. « Mais qu'as-tu donc eu toute ta journée ?» dit-elle à Claire. « Monsieur Philippe doit prendre de toi une singulière idée. » Claire, sans pouvoir répondre, tomba sur une chaise et fondit en larmes. « Mais voyons, ne pleure pas ainsi, » lui dit son père en la baisant au front. Elle sanglota plus fort. Madame Albe, n'osant la gronder, la regardait d'un air à la fois anxieux et courroucé. « Il te plaît donc bien peu, ma pauvre Claire, » reprit Monsieur Albe. « Allez, parle. As-tu peur ? Oh, nous ne voulons pas que ton bonheur, tu le sais bien, nous ne voulons que ton bonheur. »« Père, père, pardon, je ferai ce que vous me conseillez de faire. » Alors, tu ne veux pas de lui, réponds. » Elle ne répondit pas. Claire, dit alors sa mère avec la plus persuasive onction, Monsieur Saville t'aime de tout son cœur. On ne saurait s'y méprendre. S'il a été un peu gauche aujourd'hui, ne lui en fais pas un crime. Son trouble prouvait son amour. Dieu te garde, ma chère enfant, de ceux qui en pareil cas ont toute leur présence d'esprit. Claire restait muette. Elle aussi avait été troublée, mais par un autre que Philippe. Elle était de celles qui aiment non celui qu'elles intimident, mais celui qui réussit à les intimider. Demain, tâche d'être plus aimable. Continua Madame Albe très doucement. « Oh !» s'écria Claire, « oh, que deviendrai-je s'il faut encore passer ici une journée pareille ?»«
C'est entendu, » fit son père. « Il n'y a plus qu'à rompre plus tôt. Nous partirons demain, dès le matin. »«
Mais c'est impossible, » dit Madame Albe. « Nous avons promis de rester ici plusieurs jours. »
« Ma chère amie, ce qui est impossible, c'est de tenir notre promesse. »«
Mais Madame de Rêve... »«
Madame de Rêve ne vous en voudra pas. Je vais écrire un mot et bien vite le porter moi-même. Demain, nous recevrons de Paris, par dépêche, un prétexte pour nous en aller. »«
Mais vous ne ferez pas cela. Claire est une enfant sans expérience. Elle n'a pas eu le temps de se rendre compte. »
Monsieur Albe regarda sa fille. Il vit dans ses yeux une si suppliante reconnaissance que, sans plus tarder, il écrivit, prit son chapeau et sortit. Pendant que cette scène avait lieu, Philippe et les siens tenaient conseil de leur côté. Le grand-père n'y alla pas par quatre chemins.
« Philippe, cette demoiselle n'est pas la femme qu'il te faut. » « Elle ne t'aime pas, elle ne t'aimera jamais. Inutile de rester un jour de plus. » Mais si Philippe l'aime, objecta Madame Saville.
Raisonne plus pour trancher le mal au plus vite. Il en souffrira moins.
Oui, c'est juste, grand-père, dit Philippe en s'efforçant de dominer sa douleur. Mais il faut être poli.
Parfaitement, mais assieds-toi là, écris.
Demande à Paris un télégramme qui nous permette de partir demain, dès la première heure.
En allant porter la lettre à la gare, Philippe croisa M. Halbe qui en revenait. Il n'hésita plus. Le lendemain, les Halbe et les Saville prirent le même train. Ils avaient insisté pour que personne ne les reconduisît. Cette fois, ils ne montèrent pas dans le même wagon. Quand la rupture fut connue, le monde donna tort à Claire. Philippe était convoité par toutes les familles, ayant une famille fille à marier. Et Claire était trop jolie pour ne pas avoir soulevé contre elle de nombreuses jalousies. Une respectable matrone, Madame Covard, la femme du riche industriel, avait entendu leur courte conversation le soir dans le salle des closiers. Et cette bonne âme répéta à qui voulait l'entendre comment Claire, aussi folle que M. Halbe lui-même, avait reproché à Philippe Saville de rester fidèle à la nationalité paternelle et de ne pas quitter tout pour se faire soldat. Oh, ce fut contre les Halbe un déchaînement général. Dans une maison où on exécutait avec une exquise perfidie, M. Gilbert Hamel, qui avait gardé de Claire un beau souvenir, essaya de les défendre. Alors on lui conta par le menu tout ce que les mamans se chuchotaient à l'oreille avec de petites mines ironiques ou de grands airs indignés.
Mais était-il assez ridicule, les reproches de cette petite demoiselle, à celui qui lui faisait l'honneur de la rechercher?
M. Saville avait 100 fois raison de rester citoyen américain. N'était-il pas la seule consolation, la seule espérance de sa pauvre mère? Et puis, quelle précieuse garantie pour la famille où il entrerait! Au moins, il ne serait pas obligé d'aller, lui, se faire casser la tête de but en blanc pour le bon plaisir des empereurs ou des républiques. C'était le prétendu par excellence, le gendre idéal. Il fallait vraiment avoir la cervelle à l'envers pour le repousser d'aussi sotte façon. La petite Halbe ne trouverait plus le moindre épouseur et ce serait pas béni. M. Hamel haussa les épaules, estimant qu'on était fort injuste pour Claire. Il le dit comme il le pensait et il ajouta:
Ce n'est pas de celle qui coiffe Sainte-Catherine. Seriez-vous amoureux d'elle par aventure? Riposta Madame Covard, qui venait d'entrer, suivie de ses deux grandes filles.
Et pourquoi pas? Alors, demandez vite sa main. Si vous redoutez le sort de M. Saville, on pourrait vous devancer.
Un mot sans importance suffit parfois pour préciser une idée, déterminer un sentiment, transformer une destinée. 8 jours plus tard, M. Gilbert Hamel demandait Claire en mariage. Il avait 20 ans de plus qu'elle, mais il se croyait capable de rendre heureuse cette belle jeune fille qui d'emblée l'avait charmée par la grâce de son allure et la franchise de son caractère. 7 fois encore, Claire, au grand désespoir de sa mère, ne voulut pas entendre parler de mariage. M. Hamel implora la faveur de s'expliquer avec elle directement, à cœur ouvert, affirmant que même éconduit, il resterait le fidèle ami de la famille, car une réponse négative, tout en le désespérant, lui attesterait de nouveau le désintéressement et la loyauté de la jeune fille. Celle-ci l'écouta avec un intérêt sincère, surtout quand incidemment il parla de son neveu, et il comprit vite qu'il ne gagnerait pas la cause. Elle se mit à le désabuser tant de respectueuse délicatesse, tant de caressante émotion, qu'il la quitta sans amertume, conservant pour elle une pure et profonde sympathie, une gratitude mélancolique et généreuse. Elle lui avait parlé comme elle parlait à son père, avec le même accent de tendresse filiale. Elle resta triste d'avoir dû désoler un si galant homme, mais à sa tristesse se mêlait une satisfaction singulière. Il lui semblait, malgré l'invraisemblance d'une telle imagination, que la démarche de M. Gilbert Ramel l'avait un peu rapproché du jeune officier dont la figure énergique et fine restait toujours présente à sa mémoire. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle épousait un beau lieutenant d'artillerie et que ce beau lieutenant devenait général en chef, gagnait des batailles, faisait des conquêtes, signait des traités, relevait la batterie. Pour oublier sa déconvenue, M. Gilbert Ramel alla passer une journée à Hautefonds auprès de son neveu. Mais rien ne le déridait, il restait morne. « Mais décidément, mon oncle, vous n'avez pas votre air naturel aujourd'hui, » lui dit Henri après le déjeuner en allumant un cigare. « Que vous est-il arrivé ? Une mésaventure, un malheur ? Non, j'ai simplement fait une bêtise, j'ai voulu me marier. » « Vous, mon oncle ? Moi-même, en personne, mon neveu. Mais avec qui ? Avec mademoiselle Claire d'Albe ? Vous, avec elle ? Tu en as l'air suffoqué. Vous avez demandé sa main ?
Oui.
Mais vous ne l'avez pas obtenue. Oh, c'est ce qui me désole. Oh, mais c'était impossible. Quel cri du cœur, quel soupir de soulagement. Ah, te voilà enchanté, toi. Et moi qui venais chercher ici des consolations. Mais parbleu, à quoi pensais-je? Je comprends tout maintenant. C'est pour toi, bandit, qu'on a refusé Philippe Saville et moi-même, hélas. Mais comment l'ai-je pas devenu plus tôt? On est toujours plus bête qu'on ne croit. Mais je vous jure, mon oncle, tu ne m'avais rien dit, hypocrite. Mesdames, je ne savais pas. Mauvais garnement. Oh, quel regard féroce tu as eu tout à l'heure. Mais tu verras jusqu'où peut aller la magnanimité d'un oncle célibataire. Allez, tâche au moins de mériter ton bonheur. Je ne te pardonne qu'à cette condition-là. Claire donna tout droit dans le piège que lui tendit l'oncle Gilbert dès sa première visite. « Excepté vous et moi, lui dit-il, tout le monde se marie. » Et il lui énuméra plusieurs mariages récemment décidés, entre autres celui de Philippe Saville avec l'aînée des demoiselles Covard. Claire ne sourcillait pas. Mon neveu, reprit-il, mon neveu lui-même renonce à sa liberté. Et qui donc épouse-t-il? Balbutia Claire éperdue. Mais vous, mademoiselle, à moins que vous ne le refusiez comme les autres, répondit l'excellent homme, parfaitement édifié par l'émotion de la jeune fille. Pour sa pénitence, l'oncle dota magnifiquement le neveu. Le même jour, à la même heure, à Saint-Sulpice et à Saint-Roch, furent célébrés les deux mariages de Claude Albe avec Henri Ramel et d'Adèle Covard avec Philippe Saville. Mariage d'amour et mariage de raison. « Mon ami, avait dit le grand-père Rambourg à son petit, sa petite fille, écoute-moi bien.
quand tu auras de beaux enfants, une existence régulière et la sympathie des gens honorables, tu finiras par adorer celle à qui tu devras les plus sûrs éléments du bonheur. Alors, plus de passionnettes malsaines. Ce sera l'amour, l'amour vrai, celui qui crée et qui conserve. Écarte les souvenirs irritants et stériles. C'est la sagesse. Mademoiselle Albe voulait du panache. Elle en a, mais grand bien lui fasse. Ce n'était pas ton affaire. À quelque chose, malheur est bon. Philippe se laissa persuader. Il n'en sentait pas moins que, de son séjour au closier, une ombre lui resterait toujours dans le cœur. Le papa Rambourg sentait cela lui-même. Il en a gardé une forte rancune à Henri Ramel. Et ce vieillard, naguère si pacifique, est devenu subitement belliqueux. Il réclame la guerre, la grande guerre. A-t-il donc perdu tout sentiment humain ? Non. Mais si le jeune officier tombait au champ d'honneur, le bon papa pourrait dire béatement à ses amis et connaissances « Pour moi, petite madame Ramel, voilà ce que c'est que d'épouser un artilleur. » Puisse le destin lui refuser cette satisfaction à réaliser le rêve de Claire. Monsieur Albe, de son côté, ne se gêne pas pour rire avec l'oncle Gilbert du premier prétendu de sa fille. « Les femmes sont étonnantes, » disait-il encore l'autre jour. « La Vienne voulait absolument pour gendre M. Philippe Saville. Mais qu'en soit-on un mari qui ne sait pas même tirer son coup de fusil ?»